Chapitre 55. Le cauchemar de mon enfance. Dimanche, 20 août 2000, 1h11, camp de la presqu'île sauvage, île de Morne-Saye. Tout le monde dormait sous la tente. J'avais exigé de passer la nuit avec les autres adolescents sous le marabout, et non seul à l'infirmerie. La police avait accepté. Il y avait finalement moins de danger ici, au milieu des autres. Des flics tournaient dans le camp. La police m'avait interrogé en fin de journée. J'avais lâché le minimum. Juste les faits, pas mes impressions. Pour l'instant, ils s'en contentaient. J'étais revenu tard sous la tente. Depuis ma conversation avec Thierry et Brigitte, le temps s'était écoulé lentement. Stéphanie était venue à l'infirmerie, m'apporter un plateau repas, une assiette de crudités et deux morceaux de poulet que j'avais à peine touchés. Le père Duval m'avait laissé quelques livres de photos de Morne-Saye, un bouquin d'histoire de l'île en noir et blanc. Il les avait déposés au pied du lit. Je n'avais pas eu le courage de les ouvrir. Je n'avais pas eu l'occasion dans l'après-midi de reparler à Armand. Peut-être me faisait-il la gueule de l'avoir entraîné dans ce guépier. J'avais par contre longuement échangé avec Maddy. Elle m'avait rassuré, parlé de ses parents alcooliques et violents, qui avaient perdu la garde de son frère et de ses sœurs, les unes après les autres. Elle était étonnamment douce et calme dès qu'elle se posait pour discuter, à l'inverse du déguisement de louve qu'elle portait. Je l'avais trouvée jolie aussi, avec son short en jean troué, son t-shirt d'un groupe de rock que je ne connaissais pas, et ses grands yeux charbon. J'avais même essayé de prendre sa main, mais elle l'avait retirée, toute timide, en me disant que ce n'était pas le moment, qu'elle devait téléphoner chaque soir à son petit copain et que j'avais déjà bien assez d'emmerdes comme ça. Le souffle régulier des adolescents sous la tente me rassurait. J'avais eu raison de demander à dormir sous le marabout. Je n'avais pas peur, pas du tout. Mais j'étais incapable de m'assoupir. Tout continuait de tourbillonner dans ma tête. Qui croire ? Mon père, une ordure, une crapule, un monstre ? Un père mort depuis 10 ans qui revient de l'au-delà pour tuer son fils ? Et auparavant le bercer d'illusions ? C'était impossible, ridicule. Et pourtant, c'est ce que mes propres yeux avaient vu, sans l'ombre d'un doute. Mon père avait braqué sur moi son arme. Pourquoi m'était-il alors impossible de le croire, de l'admettre ? Parce que c'était mon père, malgré tout ? Non, pas seulement. Il y avait aussi tous ces témoignages convergents. Tous à part celui de mon oncle. Mon père était un héros, quelqu'un de bien au moins, quelqu'un d'honnête. On peut changer, mais peut-on changer autant ? Posséder ainsi deux personnalités ? Non, c'était invraisemblable. Je me retournais dans mon duvet pour trouver une position plus confortable. Les respirations des adolescents sous la tente résonnaient dans ma tête comme un rassurant concert. Une présence familière, la possibilité d'une vie normale, d'un sommeil apaisé pour eux. Il y avait autre chose. Il y avait forcément autre chose. Une explication rationnelle. Mon père m'avait parlé de complot. Il m'avait dit de me méfier de tout le monde. Tout le monde! Il avait su se cacher pendant toutes ces années. Tout d'un coup, une issue m'apparut. Et s'il s'agissait d'une ruse ? Et si l'attitude de mon père devant Valerino n'était qu'un rôle qu'il jouait ? Un rôle de composition pour gagner la confiance de ce truand ? Après tout, pourquoi pas ? Faire semblant de sacrifier ce que l'on a de plus cher, c'est un truc vieux comme le monde. Si mon père avait vraiment voulu nous tuer, sous la grange, un coup de revolver aurait été plus radical. Mais là, enfermé dans la cave, mon père pouvait ensuite revenir nous chercher ou téléphoner discrètement à des secours. Oui, mon raisonnement était cohérent. Nous ne courions aucun danger. Mon père bluffait. Soudain, tout devenait évident. Les accusations mensongères de mon oncle s'expliquaient aussi. Me présenter mon père comme un monstre n'avait qu'un seul but, me faire peur, m'éloigner de lui, me tenir à l'écart, m'empêcher de voler à son secours. D'abord, on me fait croire qu'il est mort. Puis je le reconnais, je le retrouve. Mon père est surpris, il improvise. Il me dit la vérité ou une partie. Mais il me met en garde contre le danger, contre tous. Me demande de ne me mêler de rien. Oui, tout s'éclairait. En se faisant passer pour un salaud, il voulait m'éloigner de lui. Aujourd'hui comme hier. Il me protégeait malgré moi. Pourquoi ? Je tournais à nouveau dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Mon regard s'égara dans l'obscurité de la tente. Je percevais seulement des ombres allongées se soulevant à un rythme régulier. Que me cachait-on encore ? Qui était mon père ? Fallait-il faire part de mes hypothèses à Maddy et Armand ? Était-il capable de me suivre encore ? Non. Ils pensaient sincèrement qu'ils avaient frôlé la mort, par la faute de mon père. mais j'avais pourtant encore besoin de leur aide. J'allais me lever, leur parler. Un discret bruit de pas dehors, tout près de la tente, me fit tressaillir. Yo-Yo, un flic en patrouille ? La toile de la tente bougea. Quelqu'un entrait. Une ombre glissait. Fallait-il jouer l'endormi ou garder les yeux grands ouverts ? Vite, choisir. Les pas feutrés avançaient dans ma direction. Trop tard, je ne choisis pas. Je m'enfonçais dans mon lit, le visage caché. Mais je gardais les yeux grands ouverts. J'avais l'habitude d'espionner à travers l'émail fatigué de mon duvet. Une vision floue de la menace extérieure. Une vision déformée, insuffisante. L'ombre était là, sous la tente. Furtive, précautionneuse. Que cherchait-elle ? Ce n'était ni l'ombre de Yo-Yo, ni celle de Stéphanie ou du père Duval. Depuis 14 jours, j'avais appris à reconnaître leur respiration, leur bruit de pas, leur silhouette. L'ombre avançait doucement. Maintenant, je l'avais reconnue. Je savais qui elle était. Au fil des années, j'étais devenu un spécialiste des veilles, des traques, comme une bête nocturne, capable d'identifier une présence dans la pénombre, au bruit, au souffle, à l'odeur. Sous cette tente, à cet instant, ce souffle, je le reconnaissais. C'était celui du cauchemar de mes nuits. C'était l'ombre de mes angoisses depuis toutes ces années. Celle de mon geôlier. Je n'étais plus dans ma tente. J'étais là-bas. Il m'avait rattrapé. Je n'avais pas réussi à fuir. J'avais 6 ans. J'étais toujours dans la même chambre, dans mon lit d'enfant, pétrifié par mes peurs. Cette ombre était là, devant moi. Elle rôdait comme elle avait rôdé auprès de mon lit pendant des milliers de nuits. Ce long tunnel noir de terreur ne s'arrêterait donc jamais. L'ombre s'avançait vers moi, avec assurance. Elle m'avait terrifié pendant 10 ans, chaque nuit. Mais je n'avais plus peur désormais. L'ombre avait compris, elle aussi. Le moment de vérité approchait. Enfin, j'allais savoir.